Bonjour à vous, c'est Jacques et merci d'écouter CFM Radio. 40 ans, 40 étés, des milliers de spectacles, des milliers d'artistes aussi, des générations de bénévoles ainsi que des souvenirs qui se transmettent presque comme un héritage. Bienvenue dans ce quatrième épisode où je vous emmène à la découverte de l'été de Vahour, un festival vraiment pas comme les autres. Pour ce dernier épisode, nous entendrons des voix de celles et ceux qui ont grandi avec ce festival, qui l'ont vu changer, parfois même depuis leur plus jeune âge, des bénévoles, des habitants, des cofondateurs. Chacun raconte au micro de CFM Radio ce que l'été de Vahour représente dans sa vie, mais aussi ce qu'il apporte au territoire. Ils nous livrent aussi leur propre définition de ce rendez-vous devenu au fil des décennies bien plus qu'un simple festival. Mais avant de les retrouver, laissons la place à la musique avec un groupe qui participera à cette 40e édition en 2026 du 4 au 9 août. Voici Baouba, attendu le samedi 8 août à 18h30 sur la place de l'église de Vahour. Baouba, à retrouver pendant cette 40e édition de l'été de Vahour du 4 au 9 août. Alors, grandir avec un festival, c'est une expérience, disons-le, assez rare pour certains. Il fait partie des souvenirs d'enfance au même titre que les vacances d'été ou les fêtes de village. Et c'est le cas de Faustine qui fréquente l'été de Vahour depuis qu'elle est toute petite. Toujours bénévole aujourd'hui, elle nous raconte comment ce festival a accompagné son parcours et pourquoi elle continue année après année à lui consacrer une partie de son été.
Alors Faustine, on a teasé hein, plusieurs fois, Talkie Walkie.
J'ai pas du tout l'impression.
Alors Talkie Walkie, c'est quoi déjà? Explique-nous.
Talkie Walkie, comme le disait Coco, c'est une place des enfants qui sont peut-être un peu trop jeunes pour déjà être dans les équipes, mais qui ont toujours connu le festival et pour qui c'est vraiment l'inconditionnel des vacances. Et les rares fois où j'étais pas revenue de vacances parce que j'étais en vacances avec mon père pour le début du festival, alors c'était je vivais un drame interne, personnel, et donc je me rattrapais tout le reste de la semaine parce que ça durait 10 jours, on avait le temps quand même.
12,
ouais, mais il y avait un jour de relâche. Et déjà, en journée, on pouvait faire le stage de cirque, donc on participait un petit peu, même quand on était enfant. Et puis en soirée, quand tout le monde faisait la fête, rigolait, on se mêlait aux conversations des grands. Et quand j'entendais « Ah ben, où est un tel? Où est une telle? Je le cherche, il faut absolument lui dire que... » Voilà, quelle information? Je dis « Ah mais je sais où il est à la commanderie !» Et tic, 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 je partais en courant pour aller donner l'info à la personne recherchée. Je revenais avec une réponse, je la distribuais, et moi j'étais trop contente de faire ça. Et c'est surtout que dans le village, avec toute cette organisation, on avait un énorme espace de liberté et d'autonomie. Et en même temps, dans, dans la sécurité, parce que tout le monde se connaît, parce que c'est des familles, parce que c'est aussi mélangé à des gens du territoire. Et comme le dit Christian, c'est un peu des... toi, tu dis des immigrés, ce qu'on appelait aussi des néo-ruraux, mais qui n'ont pas du tout été dans une démarche d'appropriation du territoire, mais au contraire de, d'observer la coutume locale et de faire pareil. Et puis d'amener ce qu'ils avaient en plus. Ce qu'ils avaient en plus, c'était des connexions avec ce réseau culturel, ce côté Larzac 68, théâtre, et d'amener ce spectacle dans cette bienveillance. Et voilà, moi je fais partie de la génération des enfants qui ont grandi avec ça et qui sont devenus professionnels dans le secteur de la culture, et on est hyper nombreux. Je dirais que de ma génération, on est peut-être la moitié aujourd'hui à vivre dans la culture. Artistes, techniciens, administratifs, chargés de communication, ou à continuer à être bénévole à droite à gauche, à être très intéressé à ça, à transmettre ça à nos enfants. Donc voilà, Tokiwoki, c'est une vraie bonne première porte d'entrée pour comprendre la prod d'un festival. Petite dédicace à Alexandra. Maintenant, on a des vrais Toki, ça capte et tout, même jusqu'à la commanderie.
Mais j'allais dire, à cause de vous, il n'y a toujours pas de bon réseau à Vao, parce qu'on sait qu'il y a les Tokiwoki qui sont là.
Il n'y a pas besoin, il ne faut pas couper la relation
humaine. Il n'y a pas besoin. Ah, mais c'est super ça. Et toi, Antoine ? Moi, je blaguais en disant que tu es né à la chèvrerie, mais c'est presque
Non, pas du tout, je suis né à Toulouse, ouais.
Ah, ouais. C'est pareil. C'est pareil.
Non, je suis un peu surpris parce que je pensais que c'était une conférence sur la fondation de la commanderie des Templiers en 1134, mais si vous voulez, on peut parler du festival aussi.
On pourra aussi parler de ça, mais il n'y a pas de problème.
Pour moi, c'est assez anecdotique. Enfin, c'est juste le début et la fin de tout. Il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à dire sur ce festival. J'ai fait à peu près toutes les équipes, voilà. Ouais, les boissons. Le parking, 9 ans.
Attends, moi je revendique quand même de n'avoir jamais été à la buvette et je le revendique. J'ai fait beaucoup d'autres équipes, mais je me suis jamais frayée avec ce peuple de la buvette, là.
Donc elle est colonelle, en fait, Faucine n'est toujours pas générale, elle refuse d'être générale, d'avoir ses galons de général.
Non, le pouvoir passe par les voies
détournées. Et Antoine, pourquoi ça représente quoi ce festival ?
Bah c'est ça, ouais, tout, rien de plus, finalement. Hein. Ce qui m'a amené ici, ce qui m'a amené à y agrandir et ce qui m'amène à y revenir, et voilà. Et bah oui, les spectacles, moi, beaucoup de souvenirs de spectacles, surtout gamins, ados, où on avait cette chance en tant que bénévole qu'on pouvait, on pouvait accéder à tous les services. Le festival avait beaucoup moins de succès, malheureusement, enfin, heureusement pour nous à l'époque. Et du coup, il y avait beaucoup de places qui restaient. Et en fait, moi, je me souviens d'années où, en fait, tous les soirs, on allait au théâtre, on allait voir, alors qu'on grandissait dans un village de 250 habitants, et on allait au théâtre tous les soirs pendant 10 jours, quoi. Et moi, j'ai des souvenirs d'avoir beaucoup ri, enfant.
C'est sûr.
Et ça a construit, je pense, beaucoup le côté sacré.
C'est le téléphone du président.
Ouais.
Président.
Merci,
Adila.
Christian. Mmh. C'est important.
Le président de la République.
Je crois que ça a conditionné beaucoup mon rapport au rire, en fait. C'est le côté sacré du rire, en fait. C'est, je pense, vraiment la chose que je mets au-dessus de tout. Et ça, l'été d'or a vachement conditionné ça, en fait, je pense.
Voilà. Moi, je trouve que ça nous a créé des difficultés dans la vie parce qu'on devient très exigeant avec les spectacles qu'on va voir. C'est difficile d'aller voir beaucoup de choses avec ce standard qu'on a eu enfant de ce qu'on a pu découvrir ici.
Ça, c'est un point important parce que ça a été une volonté dès le départ de se dire on va faire venir les gens qu'on ne peut pas faire venir ailleurs. Nous, on les voyait, ces gens, on les côtoyait un peu. Moi, j'ai côtoyé beaucoup Rufus et compagnie, Bouteille, etc., au théâtre de la gare. Et on se disait, mais il faut les faire venir, ces types. Et on disait, mais enfin, vous êtes fous, si vous vous rendez compte. Rufus, il est venu en pleine heure, par exemple. Il est reparti en pleine heure. Ben voilà, on a essayé d'aller chercher les meilleurs de l'époque. Et ça a marché, parce que quand tu les appelais, c'était tellement fou comme idée que... Ben ouais, c'est deviné quoi. On a vu un jour, je sais pas si vous vous souvenez, un gars qui faisait du mime, un japonais qui est arrivé avec sa boîte sur le dos.
Tout le monde en parle. Ça c'est Vao.
Incroyable.
On l'a déjà raconté.
Moi je veux bien l'histoire du japonais. Fred maintenant c'est le griot. Fred c'est le griot de Vao. Rapproche-toi d'un micro s'il te plaît.
En fait tout le monde, enfin il y en a plein qui m'ont parlé de ce spectacle parce que ça reste un souvenir mémorable dans des conditions de spectacle chaotiques. Et c'est peut-être les conditions chaotiques qui ont rendu ce spectacle incroyable. En fait, il va pleuvoir. Le tapis de danse va se transformer en miroir, hein, c'est ça, Thérèse ? Les cheveux de la marionnette vont projeter de l'eau partout. Tout le monde va être subjugué. Mais le problème, c'est que le lendemain, il joue à Mimos. et les marionnettes sont, ont plus de 100 ans et tout le monde, il va y avoir une équipe qui va se créer pour aller sécher les marionnettes à la fin du spectacle pour sauvegarder ces marionnettes. Ouais. Et tout le monde se souvient de ce moment suspendu. Ouais.
Et il mettait sa marionnette dans une caisse en bois qui avait deux bretelles, il mettait ça comme un sac à dos et personne ne l'a vu partir. Il est parti à 5h du matin, il est redescendu à Gaillac à pied, terminé, comme un rêve. Il y a beaucoup de rêves comme ça ici, hein. Mais des rêves partagés, des vrais rêves, quoi, en fait.
Ce que je rajouterais, c'est qu'il pleuvait, donc tout le public était sous la pluie, pardon, et personne n'a bougé. Tout le monde est resté sous la pluie. C'était vraiment formidable, émotionnellement.
Ça, c'est vrai. Fred nous l'a mis en tête maintenant, le « ça, c'est vrai » que... On est obligé de l'utiliser. Et ça, c'est Vao aussi, parce qu'on ressent, hein, et j'ai beaucoup aimé ce que tu nous as dit, Faucine, que des enfants qui grandissent comme ça, c'est aussi peut-être ça qui était nourri par les cofondateurs à l'époque, de semer des graines et de voir où elles aboutissent. Et bien là, ça fait 40 ans que ça continue. Et je pense que c'est ça qui donne de l'émotion à l'un des cofondateurs de ce festival qui est avec nous.
Avec graines de programmation.
Mais c'est ça, tu vois. Donc, ça continue. On en a parlé tout à l'heure là avec... avec Anaïs, hein, qui a plus que usé de ses graines de programmatrice, parce qu'aujourd'hui, elle est en stage à l'été de Vao, après avoir participé à ça.
Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils vont tous fêter les 60 ans de l'été de Vao, c'est sûr.
Je crois que c'est en préparation déjà, normalement, tu nous parlais de la programmation des 60 ans. Ouais.
Et j'espère que j'y serai invité quand même.
Ah ben là, place VIP, place VIP premium.
Nageons nos profondes, si Rosalie, t'as dû tenir droit à droite de lui. Le jour qui s'en va, un verre de moi, je redescends en bas, ma tête en feu ne reviendra pas.
La poésie acoustique du duo Miral en concert à Vaour le 7 août à 18h30.
À ta santé.
Est-ce que quelqu'un ici autour de la table souhaite nous partager encore des éléments sur l'été de Vao? Alors il y a des doigts qui se pointent à gauche, à droite. Rapprochez-vous juste d'un micro de CFM Radio. Alors, messieurs et dames, vos prénoms, noms, si vous voulez nous dire.
Alors, Véronique Malbert.
Ouais, c'est Phil.
Philippe. Et en fait, on a participé en 2011 à la programmation. On a fait l'arbre généalogique de la biscotte. Et on s'appelait Marvelous Transfo. Et on a fait un concert de biscotte qui a... commencé pour le festival, je crois.
On a fait l'ouverture du festival avec un concert de biscotte. On était une dizaine, sonorisés. C'était derrière dans la cour de l'école, juste derrière l'école. On était sur une tribune, chacun qui a un micro, des paquets de biscottes, du stock de paquets de biscottes.
Tout en noir, très
un chef d'orchestre, et on grignotait. Et c'est dommage parce qu'on avait un peu pensé, puis on a manqué de temps. On aurait pu vous faire une petite démo là en direct.
Mais on n'est pas
on n'a pas eu le temps de s'organiser, on arrive de loin. Là. Bon bref.
Donc, on avait bossé pendant des semaines.
Ouais, on avait répété.
Pour essayer de trouver qu'est-ce qui pouvait avoir tous les sons qui pouvaient être envisageables avec une biscotte. Parce qu'en fait, l'idée de Marvelous, c'était de développer l'imaginaire à partir du quotidien, pas dans un but artistique. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme objet qui soit vraiment insipide, incolore, enfin que tout le monde connaît, que tout le monde a. Et on est parti sur la biscotte. Et on a découvert un monde incroyable de la biscotte.
Non, c'était l'année de la biscotte, il faut bien préciser.
Et après, on a fait un lâcher de biscotte pour la fin du festival, avec des étiquettes. Et les gens qui trouvaient ce ballon avec des biscottes accrochées, devaient, enfin, s'ils voulaient, ils nous renvoyaient en fait l'étiquette en nous disant où est-ce qu'ils l'avaient trouvé. Et ça a été jusqu'en Aveyron, quand même.
Non.
Oui. On a récupéré trois.
Il y a eu trois retours.
C'est trop bien.
Trois retours.
Et après, voilà.
Ben, en même temps que le concert de biscotte, alors, pour préciser un tout petit peu, il y avait des moments de solo. Par exemple, un moment de solo, c'était...
Ah.
par exemple, quoi, voilà.
On avait un chef d'orchestre.
Hein, oui, on avait un chef d'orchestre, absolument.
On a une vidéo très pourrie, si vous voulez.
Oui, on a des traces.
En plus, ce jour-là, il y avait du vent. Donc, avec la biscotte, c'était vraiment... Voilà.
Et ce qu'on peut préciser, c'est que, parallèlement au concert de biscotte, il y avait une expo musée de la biscotte. Donc, on avait bossé comme des malades, quand même, ouais. quoi, en amont. C'était pas dans l'école, mais dans le bâtiment qui est derrière. Quoi. Il y avait une expo musée, peut-être certains l'ont visité, je ne sais pas, 2011. Et donc on avait fait des choses interactives où racontez votre histoire avec la biscotte et on avait un enregistreur et après on avait plein d'histoires, des gens qui racontaient ben moi quand j'étais petite fille, je m'en croquais des biscottes. Alors plein d'histoires. Et puis après, on avait fait tout un délire autour de l'histoire de la biscotte à travers les âges, inventée en 1786. Il y avait des choses vraies, des choses complètement inventées.
Il y avait des
inventées.
Cartes, des invasions aussi.
Enfin, c'était
des
bien marré à faire ça.
Suédois, par exemple.
C'était un vrai musée expo, quoi. Bon, voilà, on avait bien déliré. Le seul regret qu'on ait, c'est qu'on n'a jamais renouvelé l'opération alors qu'il y avait vraiment matière. On avait vraiment bossé sérieusement là-dessus. Et on ne l'a jamais... renouvelé ailleurs, quoi, mais c'est dommage.
Mais l'expo existe toujours, elle est stockée chez une copine qui en a ras-le-bol d'avoir tout ça depuis 2001. Et voilà. Et après, sinon, dans l'arbre généalogique, du coup, il y avait aussi des vidéos, il y avait l'histoire de la biscotte avec des fausses recherches archéologiques, enfin, il y avait plein de choses.
Les spécialistes de la biscotte à Vavour, quoi.
C'est ça.
Vous êtes revenu en plongeur sous-marin aussi, non?
Ça, c'est une autre histoire, Christian, mais je ne sais pas si on est là pour la raconter, c'est une autre histoire qui n'a rien à voir.
Ou alors, ah, ça n'a rien à voir. Mais c'était bien
ça,
aussi.
Ça, c'est avec de Vavour ou quoi? C'est Marvelous Transfo 2011, quoi.
Ouais.
Et sinon, moi, je fais partie des... Alors, ça va se célébrer cette année, puisque je fais partie avec une bande d'allumés du Lot, Saint-Céré, Figeac, par là, du côté de Saint-Céré, les gens qui ont inventé l'apéro-concert à Vavour. C'est-à-dire qu'on est venu en 86, nous, on jouait dans la rue, on partait en bagnole, on avait deux, trois bagnoles, on était une douzaine, on s'appelait Rom Coco. On jouait dans la rue, moi je jouais de la flûte traversière, on était entre 12 et 15. Et on se payait les vacances comme ça, on partait en vacances et le chapeau nous payait l'essence et la bouffe. Quoi. Voilà, c'était ça l'idée. Et on est passé par Vavour et on est arrivé à Vavour au premier festival. Oh, on a trouvé ça sympa. Tout à l'heure j'entendais parler de l'esprit de Vavour, ben, on sentait que c'était déjà festif, ouvert, etc., partageux, enfin... Ça nous correspondait bien. Et donc, on est allé voir les organisateurs en disant, nous, on peut vous proposer un deal, on vous fait de la musique, et en échange, vous nous filez des billets pour les spectacles du soir. Et donc, on a fait ça. Donc, on a joué à l'heure de l'apéro dans la rue. Et le soir, bah, on a été voir des spectacles. Et on a un souvenir de ça encore récemment, parce que cette fanfare existe toujours. Il s'appelle Conflit de Canards. Vous voyez à peu près l'âge que je peux avoir. Il y en a qui sont même plus âgés que moi dans la bande. Et ça existe toujours, donc Rom Coco a survécu à travers les âges, 40 ans plus tard, ça s'appelle Conflit de Canards. Et aux dernières nouvelles, on va venir faire...
Ils vont rien faire.
Chose. Et ce que rappelait Christian, c'est que quelques années plus tard, on est revenu, alors une autre formation, moins nombreux, on était 5-6, il y avait de l'eau dans le gaz entre nous, mais ça ne s'est pas vu. On a joué quand même dans la rue et tout ça. Et cette fois-là, on est arrivé en tenue avec des tubas, des masques et des trucs improbables. Et avec Christian, on se connaissait dans le milieu professionnel. Lui, c'était monsieur Dulieu de l'école Saint-Simon. Et moi, j'étais monsieur Roche du conseil régional. Et d'un seul coup, il a vu arriver Phil avec un tuba. J'avais pris le peignoir de ma compagne. C'était à moitié à poil, quoi. Et je jouais la flûte traversière. Il m'a vu arriver. Et à chaque fois qu'on se voit avec Christian, il raconte cette histoire. Alors, je ne sais pas quelle année c'est, mais c'est des années plus tard.
On se voyait en costard-cravate, quand même. Hein. C'était sérieux, quand même. C'était du clean.
D'un seul coup,
ça change tout.
C'était d'autres
histoires.
Mais ça, ouais. C'est Vavour. Voilà.
Mais c'est avec ça que j'aimerais qu'on termine. Et là, pour le coup, je vais demander à chacun de passer plus ou moins un tour de rôle autour des micros qu'il y a là, pour nous dire, dans cette expression, ça c'est Vavour, qu'est-ce que ça représente pour il ou elle? Qu'est-ce qui est Vavour pour vous, que ce soit le festival, le village aussi? Parce que peut-être cette idée de festival, un festival comme ça que je vais qualifier d'un peu déjanté, ne pouvait pas se naître à n'importe quel endroit. Alors, je commence avec toi, Christian. Qu'est-ce qui est Vavour pour toi, que ce soit le festival ou le village? C'est quoi Vavour pour toi?
Pour moi, Vavour, c'est tous les bénévoles. C'est une espèce de constellation. Il y a quatre gugus qui font un petit peu les satellites. Et puis après, pouf, c'est une étoile filante, tu vois. Et toute la constellation, bah, c'est les bénévoles. Sans bénévoles, il n'y a pas Vaour. On ne peut rien faire. Voilà, c'est tout.
Thérèse ?
C'est vrai que je rejoins un peu Christian, parce que ce qui est extraordinaire, c'est toute cette traversée pendant 40 ans, en gardant le faire ensemble, et tous ces bénévoles qui, je crois que c'est un moment formidable, quoi, d'être ensemble. Il y a des choses des fois dures, on peut en pleurer, on peut en rire, et tout ça, c'est, pour moi, c'est l'humanité, enfin, c'est très, très mélangé, toutes les générations. Et dans le CA, ça a continué aussi comme ça, avec des brassages de gens, et c'est ça qui est riche. Ben pour moi, c'est ça, c'est cette richesse dans les relations humaines, je dirais, voilà. Et que ça continue.
Et Coco, dis-nous, c'est quoi Vao pour toi ?
Et, alors moi, je vais revenir sur ce passage de flambeau de génération en génération, et de voilà, d'adultes et qui ont des enfants, qui ont eux-mêmes des enfants, et où... chacun a son vaour, mais en fait, c'est le vaour de tout le monde. Et c'est quelque chose qui compte vraiment dans la tête des enfants qui deviennent des adultes et qui transmettent à leurs enfants.
Je vais venir sur le deuxième rang après, et surtout en dernier avec Fred Billy, parce que lui, il est en train de chercher une résidence secondaire dans les parages. mais déjà, Pascal Saurin, bénévole historique, je t'ai présenté comme ça. Donc forcément... Vao représente quelque chose pour toi, que ce soit le village et surtout ce festival.
Vao, le village, moi je trouve que ça a été bon de faire des enfants à Vao, d'élever mes enfants à Vao, parce que vraiment, le village est plein d'enfants, et puis ça va de 7 à 77 ans, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont tant réceptifs à un festival du rire.
Dis-nous Vao pour toi.
Ben, je pense que ça rejoint des choses qui ont été dites. Moi j'étais fan très tôt de théâtre de rue. Tous les arts de la rue m'ont beaucoup parlé pour cette proximité. J'ai trouvé ça à Vaour, avec les spectacles comiques en plus, on venait se marrer, quoi. Et là où je rejoins des choses qui se sont dites, c'est que derrière ça, il y a une solidarité, un compagnonnage, quoi, très 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 fort, intergénérationnel effectivement, mais pas que, quoi. Et ce sens de la fête, parce que pour moi la fête c'est pas juste déconner ensemble, ça a vraiment une fonction sociale, et plus ça va, plus la fête pour moi est un truc important. Une fonction sociale, je ne sais pas comment le dire autrement, de plus en plus.
C'est un programme présidentiel, ça, à part les temps qui courent, hein, tu sais, parce que le sens de la fête aujourd'hui, fais gaffe.
Et, hein. Et voilà, et Vaour, ça symbolise vraiment tout ça. En plus, il y a le in, le off, et le off du off, enfin, donc il y a des moments de liberté, et de plus en plus, il y a eu peut-être un creux de vague, mais on retrouve... espèce de dynamique et de liberté, de gratuité pour ceux qui ne peuvent pas payer, etc. Et ça, c'est vachement important, quoi. Donc, la fête et l'intergénérationnel et le compagnonnage, ça serait un peu les mots, quoi, qui résument le truc.
Et pour toi ?
Alors pour moi, c'est une super programmation, en général, hein, avec beaucoup de curiosité, des découvertes. Et puis, effectivement, ce côté gratuit pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un spectacle. Et c'est vraiment... moi, j'ai découvert plein de spectacles superbes à Vaour, vraiment. Et puis, ce côté festif aussi. Et l'accueil aussi, je trouve que c'est un truc... Enfin, en tant que... Justement, quand on est venu avec Marvelous, puis moi, je suis venue aussi avec la MJC, avec un projet d'ado qui s'appelait B24, Le Bonheur Comprimé, qui était une pièce radiophonique. Et on a été accueillis, voilà, super bien. Donc, c'est une ouverture aussi sur des choses qui ne sont pas forcément normées ou pas... Et je trouve que c'est des belles découvertes, en général, humaines et artistiques.
Eh ben, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Christian et ce qu'a dit Thérèse, parce que ce qui ressort pour moi par-dessus tout, et ce qui continue à m'animer, que je puisse en faire partie en tant que bénévole ou en tant que festivalière, c'est cette énorme humanité et le fait qu'on soit tous sur un pied d'égalité. Il y a une grosse transmission qui se fait, et Vaour... Ça, c'est Vaour, c'est un objet qui me permet de me faire des amis dans le monde entier, parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée, moi j'ai été étudiante à Lille, et parfois j'ai voyagé dans d'autres villes, c'est qu'à un moment, je rentre dans un bar, à Lille, dans mon quartier, à Oisem, j'arrive, je m'assieds à côté de quelqu'un, on discute, il faisait du théâtre, et très vite, en 10 minutes, on se rend compte qu'il connaît Vaour, et on est devenus meilleurs amis. Bon, je ne dis pas que c'est mon meilleur ami aujourd'hui. Et en fait, ce truc de l'été de Vaour, de tous les gens qui ont traversé ou qui ont été traversés par ce festival, c'est qu'il y a une reconnaissance, un peu la reconnaissance du ventre, où on est dans ce même chaudron tous. Et c'est un truc hyper puissant et assez inimitable. Et cette grande collectivité, confrérie, confrérie, sororité, enfin on appelle ça comme on veut, elle existe par-dessus tout. C'est une énorme aventure humaine. C'est très, très puissant.
Je vois qu'Alain t'influence, hein, tu nous parles de chaudron, tu nous parles comme ça de nourriture aussi d'une certaine manière, de la potion magique. La potion magique d'Alain, il va nous donner le menu des 40 ans par la suite, mais déjà, c'est ça Vaour, ça veut dire quoi pour toi Alain?
Ben, Vaour c'est un festival, mais c'est aussi un village quoi. Nous on est arrivés à Vaour par le festival, c'est pour faire de la cuisine quoi. Et donc c'est très important, et puis à Vaour, il y a beaucoup d'autres choses que le festival. C'est très riche, quoi.
Eh bien, merci pour cette note festive qui va presque clôturer cette émission, mais on va la clôturer avec d'autres voix aussi qui vont nous dire Fred, pour toi, qui connais Vaour depuis 5 jours, c'est ça, Vaour. Ça veut dire quoi pour toi?
Ben, en fait, ça va être mon problème jusqu'au dimanche, parce que, comme vous le voyez, c'est une histoire importante pour beaucoup de gens. Et celui qui va la raconter, c'est celui qui la connaît le moins. Et donc, je vais essayer de ne pas la saloper, respecter toutes ses paroles. Voilà, je ne dirai pas tout, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, ces 5 jours m'ont montré l'importance pour tous ces gens que ça continue d'exister. Et je crois que ce n'est pas tout le temps simple, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur les associations. Donc voilà, moi je vais essayer de respecter et d'honorer cette histoire. Et du coup, je crois que j'ai pas mal de travail d'ici là.
On va le découvrir le 9 août, hein, la grande épopée de l'été de Vaour, Fred Billy avec son copain Yannick Jolin, qui vont nous proposer comme ça une espèce de ping-pong entre deux villages qui se ressemblent un peu et qui ont un tout petit peu la même histoire, hein, avec la création de festivals comme ça qui nous permettent de nous retrouver, de rire aussi, de nous édifier. Comme je le disais tout à l'heure, par le rire, on peut aussi apprendre beaucoup de choses. Notamment là, cette année, on va en apprendre des choses sur la vie sexuelle des insectes. Je reviens sur ça parce que je ne sais pas pourquoi à chaque fois que j'ouvre le programme, je tombe dessus.
Donc, il y a du sexe.
Donc voilà. Ben oui, oui, mais il y avait du sexe au début.
Ah ouais, beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Voilà. Je veux dire un petit truc aussi. Je voudrais dire un petit truc. Il y a un gars qui était au boulevard des Allongés, là à côté, qui s'appelle Francis Dupas, c'était le premier maire. Et un soir, on était bourré. Et on s'est dit, il faudrait viser un truc, parce que si vous voulez faire de la réalité, il faut rêver. Hein. Le gars qui dit qu'il ne faut pas rêver, il faut le descendre, ce type-là. Hein. Et on s'était dit, il faudrait décréter la République démocratique de Vaour. Ben, je crois qu'il avait raison, on y arrive.
L'été de Vaour, un festival et un lieu fédérateur, un endroit où on se rencontre, on découvre, on transmet, un rendez-vous qui crée des liens entre générations, entre artistes et public, et surtout entre un village et ceux qui le font battre. 40 ans après ses débuts, le festival continue de se réinventer sans perdre ce qui fait son essence. Une soif de découverte artistique, une mobilisation de tous et cette envie de faire de la culture un moment simple, partagé, ouvert à tout le monde et en milieu rural. Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de partager un bout de cette aventure collective, aux salariés bénévoles de cette association L'été de Vaour. Et si ces histoires vous ont donné envie de découvrir ou redécouvrir L'été de Vaour, il ne vous reste plus qu'à franchir les portes du festival et à écrire vous aussi votre petit chapitre. Merci de nous avoir suivis dans ce feuilleton sur les 40 ans de L'été de Vaour, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. C'était Jacques, à très vite. La mulher va dançar. La mulher catreja, esquilo. La mulher catreja, esquilo.